Peut-être je vais m'incliner dans la prière avant de commencer. Seigneur, merci de ce que tu es celui qui pardonne nos péchés, qui nous aime, qui nous relève. Tu es venu sur cette terre pour changer nos vies, pour nous transformer, Seigneur, et nous rendre aptes à te servir, à te plaire, à t'être agréable. Et nous te remercions. Nous te sommes reconnaissants d'être un bon Père qui nous aime, qui prend soin de nous. Seigneur, bénis maintenant ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur, et tu l'as donnée pour nous enseigner. Qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, et que tu fasses grâce, et que tu te glorifies, s'il te plaît, Seigneur. Merci, bénis mes frères et sœurs, bénis notre communion, et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans l'étude biblique, chaque semaine, le jeudi soir, on étudie l'évangile de Luc. Et donc, on était à la fin du chapitre 10, jeudi dernier. Et le dernier passage du chapitre nous parle de Marthe et Marie. Alors, vous connaissez bien cette histoire où Jésus est en train d'enseigner dans la maison de Marthe et Marie. Marthe est affairée aux soins domestiques. Elle s'agite dans tous les sens. Elle est soucieuse probablement de bien faire le repas, préparer pour Jésus, pour que tout soit bien en place dans la maison. Et soudain, elle va se tourner vers Jésus. Elle va lui dire, « Seigneur, cela ne te file-t-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Et devant cette nouvelle année là, qui s'ouvre devant nous, 2017, hier soir je me disais, mais c'est quand même incroyable, 2017, bientôt 2020, vous imaginez ça? 2020, 20 ans après, l'an 2000, mais quand on était avant 2000, on n'envisageait pas ça, quoi, de se dire, mais on ira jusque là. Eh oui, on est bientôt en 2020. Et devant cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, j'aimerais qu'on se rappelle tous qu'une seule chose est nécessaire. C'est le Seigneur qui le dit lui-même. C'est lui qui dit une seule chose est nécessaire. Quelle est cette chose? Marie est au pied du Seigneur. Elle est en train de l'écouter. Et Jésus lui dit, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et être au pied du Seigneur, eh ben, c'est se tenir devant Dieu en fait. C'est être devant lui. C'est d'abord pour l'écouter. Bien sûr, là, elle était particulièrement en train d'écouter, mais c'est aussi pour lui parler, c'est pour le prier, hein, quand on est devant lui, eh bien, on lui parle. Qu'est-ce qui est mis en avant dans ce texte? En fait, c'est la communion avec Jésus-Christ. La bonne part, c'est ça, c'est la communion avec Jésus-Christ. C'est de placer, c'est de miser sur sa relation avec le Seigneur. On mise sur ça, ma relation avec Dieu. C'est important. Alors, comme je l'ai dit jeudi dernier, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'asseoir et puis regarder les autres agir et ne rien faire? Non, bien sûr. Hein. Les choses ne se font pas toutes seules. Si j'ai des responsabilités, Dieu ne va pas me couvrir et faire un miracle pour que les choses soient faites toutes seules. Et puis voilà, parce que j'ai passé mon moment dans la prière, tout va bien, je me réveille, le ménage est fait, le repas est sur la cuisine. Non. Non, c'est clair que non. Hein. Il faut bien que je le fasse. De la même manière, dans l'Église, les choses se font parce que les personnes le font. Hein, c'est parce qu'il y a des personnes qui font le ménage que le ménage est fait. Hein. Vous n'arrivez pas, c'est pas un ange qui a fait le ménage la semaine. Hein. Il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Et donc, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'action et qui servent que les choses se font. Et c'est important de s'en rendre compte. La relation avec Dieu, elle n'exempte pas de l'action. Au contraire, il faut agir. Mais une seule chose est nécessaire. Ça signifie que la relation avec Dieu, elle prime sur toutes les autres choses. La relation avec Dieu, elle prime. Si l'action et les œuvres que vous faites vous empêchent d'avoir votre relation avec Dieu, alors il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Dieu ne veut pas cela. Comme Joseph nous l'avait rappelé jeudi dernier, j'ai retrouvé la citation de Martin Luther qui disait « Si je ne réussis qu'à prendre 2 heures dans la prière chaque matin, Le diable a la victoire pour le reste de ma journée. J'ai tant à faire que je dois passer trois heures chaque jour dans la prière. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous devez commencer à prier 3 heures demain matin, hein, mais chacune de nos actions sont animées et inspirées par le fait qu'on les a remises à Dieu. On demande à Dieu et il inspire et il anime ce que l'on fait. Et Dieu veut qu'on se souvienne qu'une seule chose est nécessaire. C'est Jésus qui le dit. Autrement dit, il faut commencer par là. Il faut la mettre en priorité. C'est une priorité. Et puis ensuite, eh bien, on fait ce qu'on doit faire. On remplit nos responsabilités. On ne se met pas au chômage. On avance. Et c'est intéressant de voir que suite à cet événement de Marthe et Marie, juste après, quand vous continuez le chapitre, et ça va être notre texte ce matin, on entre dans le chapitre 11 et on va lire le verset 1. C'est une question que les disciples vont poser. Alors, Luc 11 et verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Voilà, Jésus est en train de prier. Peut-être ses disciples sont un peu plus loin, ils sont en train de le regarder. Et puis ils se disent, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu, quoi ? Qu'est-ce qu'il est en... Voilà, comment il fait ? Comment il parle à son Père ? Alors il y a cette question spontanée, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et je me disais, mais est-ce que j'ai déjà moi demandé au Seigneur, « Seigneur, enseigne-moi à prier. » C'est beau ça, c'est une belle question. C'est une question légitime. « Enseigne-nous à prier. » Et en ces débuts d'année, je reviens sur ça, l'important c'est de se dire une seule chose est nécessaire. Et c'est ma relation avec Dieu. Et dans ma relation avec Dieu, ben, c'est de prier, d'apprendre à prier. C'est vraiment nécessaire. C'est le cœur de la relation avec Dieu, la prière et la lecture. Alors, où on en est, qu'on fasse une introspection et qu'on se dise, mais où j'en suis dans ma relation avec Dieu et dans ma vie de prière surtout. Est-ce que je suis actif ? Est-ce que je suis luttant dans la prière ? Ou bien est-ce que je vivote dans ma prière, dans ma vie de prière ? Et la faiblesse d'une vie chrétienne, elle est principalement due à la faiblesse de la vie de prière. Quand on a une vie de prière qui est faible, qui est légère, qui est peu profonde, ben, tout le reste suit. Après, ben, toute la vie, elle devient pareille. Alors Jésus va enseigner à prier. Versets 2 à 4. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Je m'arrête ici, on continuera après. Donc c'est la prière communément appelée le Notre Père, mais ici elle est dans une version réduite, hein, puisqu'on la trouve bien plus longue dans d'autres évangiles. Mais on a ici quand même l'essentiel. Hein. D'abord, on s'adresse à Dieu comme étant un Père. Et la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation lointaine, abstraite. Nous le savons, on sait que dans le monde, certains voient Dieu comme une force, comme une puissance, comme quelque chose d'abstrait, ils ne savent pas trop dire ce que c'est, Dieu. Pour d'autres, ils pensent que Dieu, c'est quelqu'un qui est une personne, mais une personne qui est très lointaine et très froide. Une personne qui demande la soumission. Et voilà, il faut se soumettre. Et il y a une distance hein, entre lui et nous. Et rien à voir avec ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous dit, Dieu est votre Père. Dieu est un Père. Et ça le rend proche. Un Père ben, compatissant, soucieux du meilleur pour chacun d'entre nous, aimant. Alors il y a cette proximité, Dieu est mon Père. Et en même temps, eh bien, ça n'enlève pas le fait que c'est Dieu. Il est mon Père, mais c'est Dieu. Et ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Et ça nous rappelle que Dieu n'est pas un homme. Il est avant tout un esprit. Il est l'esprit éternel qui a fait toute chose. Dieu est Dieu. Et on ne doit pas prendre son nom en vain. On ne doit pas se moquer, le tenir pour rien ou user de familiarité. C'est un père aimant, mais en même temps, eh bien, il y a un respect pour sa personne. Il dit ensuite que ton règne vienne. Et il règne. Et l'honorer, eh bien, c'est dire, Seigneur, je veux que ton règne vienne. Maintenant, quand vous faites cette prière, Seigneur, que ton règne vienne, on ne peut pas dire ça si on ne veut pas qu'il règne dans notre vie personnelle. Hein. Ça n'a pas de sens de dire que ton règne vienne, sauf dans ma vie. Moi, je fais ce que je veux. Non. Ça veut dire, eh bien, je le dis, je le pense, je le veux. Seigneur, règne aussi sur ma vie. Règne sur mon cœur. Je veux t'obéir. C'est ça. On doit demander au Seigneur qu'il règne en nous. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ça, c'est un rappel que nous dépendons de tout physiquement, nous dépendons de lui. Souvent, dans des milieux catholiques, je l'ai entendu, les personnes disent « Oh, moi, je ne demande rien à Dieu. Non, moi, je le prie, je l'adore. » Et finalement, ça se résume à ça, la relation avec Dieu. Mais Jésus nous dit « Demandez pour vos besoins, demandez. » Et Dieu nous appelle à la fois à la confiance, bien sûr, puisqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, il nous appelle à la confiance. Mais en même temps, il n'y a rien de mal de demander, au contraire. Il dit « Mais demandez votre pain quotidien, demandez ce que Dieu pourvoit à vos besoins. » Ça nous rappelle qu'on dépend de lui. Ensuite, il dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Donc, c'est une prière de repentance. Pardonne-nous nos offenses. C'est direct, pas besoin d'intermédiaire. Direct, je viens à Dieu. Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Et il nous oblige à pardonner à ceux qui nous offensent. Et ce n'est pas facile. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé. Il nous y contraint. Dernièrement, quelqu'un me demandait, mais si l'autre ne demande pas pardon, est-ce que je dois pardonner? Ben oui, je dois pardonner quand même. Alors, ce n'est pas parfait. C'est sûr que ce n'est pas parfait. C'est parfait quand la personne demande pardon. Et quand elle fait comme si de rien n'était, alors là, ce n'est pas parfait. C'est sûr. Quand ça arrive, vous savez, ce chrétien qui ne demande pas pardon, eh bien, il laisse derrière lui des relations affectées, altérées, fragilisées, brisées parfois, et une perte de confiance. Forcément, quelqu'un commet une offense vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et puis il ne demande jamais pardon, il fait comme si de rien n'était, il est en train de détruire sa relation avec son frère ou avec sa sœur. Il la détruit. Après, la personne, si elle est spirituelle, elle va lui pardonner. Elle va continuer à avancer. Mais il restera toujours cette petite chose. Ça ne sera pas oublié. Ça restera. Et le risque, hein, c'est que des fois, ça ressorte, forcément. Ça n'a pas été réglé. Et donc, quelqu'un qui ne demande pas pardon, il laisse plein de petites choses dans les relations derrière lui. Et ça reste, ça traîne. Et vous savez, la crainte, c'est après quand on arrive devant le Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle, tu te rappelles là ce que tu as fait là? Tu n'as pas demandé pardon? Et puis là, et puis là, et puis là, et puis là. Et... Demandons pardon. Demandons pardon. Humilions-nous. Et pas juste, je m'excuse, hein, du bout des lèvres. Pardonne-moi, j'ai eu tort, j'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi. Alors, eh bien, la communion peut être restaurée. Dieu nous oblige au pardon, parce qu'il nous pardonne. Paul exhorte à Timothée, il lui dit, de garder la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience. Quelques-uns, il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. À force de laisser des petites choses comme ça derrière soi, eh bien, on finit par altérer même sa relation avec Dieu. C'est pas une bonne chose. Enfin, la prière modèle dit, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Et c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On chute. Puis on se dit, oh mince, mais pourquoi ça arrive, Seigneur? Pourquoi j'arrive pas à résister à ce qui est une faiblesse en moi, à mon péché? C'est la colère, je m'emporte, c'est la débauche, C'est l'hypocrisie, c'est une vie double, c'est de la convoitise, c'est de l'irritation, peu importe. Hein. Mais pourquoi je n'arrive pas à surmonter ? Mais le Seigneur, il nous dit, mais est-ce que tu as prié fidèlement ? Est-ce que tu as demandé, Seigneur, garde-moi de ce péché ? Seigneur, protège-moi du tentateur, protège-moi de la tentation. Je ne veux pas tomber, Seigneur, garde-moi dans cette journée. Si nous prions, Dieu nous garde. Si nous ne prions pas, on se met dans un état de faiblesse. Et on a tous une faille. Il y en a certains, ils ne vont jamais tomber dans un type de péché parce que ben voilà, la vie et la construction de leur âme et les circonstances de leur vie ont fait que ce n'est pas quelque chose qui les tente. Et puis il y a d'autres choses, mais c'est... Voilà, quand ça arrive, quand les circonstances sont là, bing, on tombe. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut prier. C'est dire, là, je suis faible. Je suis incapable de résister ici. Si ça arrive, je tombe, c'est sûr. Seigneur, garde-moi. Garde-moi demain. Garde-moi encore après-demain. Et je redemande, et je redemande. Garde-moi, garde-moi. Et parfois, la solution à nos luttes intérieures, elle n'est pas loin. Elle est juste là, dans la prière, simplement, à demander. Regardez la suite de notre passage. Luc 11, versets 5 à 10. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et donc Jésus continue à enseigner sur la prière et nous raconte l'histoire de cet homme qui arrive à l'improviste chez l'un de ses amis. L'ami n'a rien dans la maison, et n'a pas de farine, n'a pas de quoi faire des pains. Et il se dit, oh, ben, je vais aller voir mon ami qui habite à côté, il sort. Il tambourine à sa porte pour lui demander des pains, 3 pains. Et Jésus dit que c'est l'importunité qui ferait descendre son voisin pour lui donner ses pains. L'importunité, eh bien, ferait qu'il bouge et qu'il descend et qu'il lui donne ses 3 pains. Pourquoi il nous dit ceci ? Probablement parce que Dieu nous demande de l'importunité dans nos prières. Il veut qu'on soit importun. Et parfois, on est dans une situation où on se dit, mais j'ai rien à donner à l'autre. J'ai pas de pain spirituel. Lui donner un témoignage, lui donner un accueil digne de Dieu. Et on se trouve démuni. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur ? Voilà. Qui suis-je, hein, pour être ton témoin ? Mais Dieu nous autorise à l'importunité. Jésus dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. L'importunité. Et ici dans le texte, c'est se lever en pleine nuit pour demander quelque chose. Combien il y a de prières dans la Bible ? Vous lisez toute la Bible et vous voyez combien il y a d'hommes qui ont été importuns en pleine nuit, on va dire, pour aller demander à Dieu. C'est Abraham, c'est Jacob, c'est David, c'est Jésus qui se levait en pleine nuit et qui priait, ou très très tôt le matin. Bon, bien sûr, il n'est pas question, encore une fois, de mettre son réveil à 2 heures du matin pour se lever spécialement pour prier. Mais on fait une insomnie. Voilà, c'est une raison de se mettre à genoux. Ça m'est arrivé, moi, insomnie. Je vais dans la salle de bain, je me mets à genoux et Seigneur, voilà, on demande à Dieu au milieu de la nuit, quelque chose nous tracasse. Pourquoi ne pas prier, ne pas être importun et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, agis. versets 9 et 10. Regardez, on va relire ces versets. Versets 9 et 10. « Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ce sont des promesses. Dieu nous donne des promesses. C'est lui qui le dit. Et c'est des promesses simples. Demandez, on vous donnera. Il n'y a pas plus simple. Il nous assure, il s'y engage à donner si on demande, à trouver si on cherche, à ouvrir si on frappe. Alors ce qui est triste, c'est que Dieu nous dit aussi par la bouche de Jacques, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et la prière, la vraie prière, c'est quelque chose de difficile. C'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'elle oblige à faire abstraction de tout ce qui est visible, de tout ce monde qui nous entoure, et nous concentrer sur Dieu qui est invisible et qu'on ne voit pas. C'est possible par notre esprit. Nous sommes aussi des êtres spirituels, mais c'est difficile. Dire, allez, je fais abstraction du visible et je me concentre sur Dieu que je ne vois pas. La prière, ce n'est pas juste une répétition de mots, hein, vous savez. On est avec un exemple de la prière du Notre Père, mais ce n'est pas juste de répéter « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Ce n'est pas ça la prière. La vraie prière, c'est s'adresser à Dieu, croyant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que je crois que Dieu existe, je lui parle, Et je crois que Dieu va répondre. Je crois qu'il va me répondre. C'est ça la prière. Et donc il est question de se concentrer sur Dieu et de lui parler comme je suis en train de parler à quelqu'un. Quand vous parlez à quelqu'un, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Hein. Sinon c'est terminé, la conversation s'arrête. Hein. Et l'autre se dit, en fait il ne m'écoute pas. Quoi. Et ça s'arrête. Quand vous parlez à quelqu'un, il faut vous concentrer. Ça oblige à une concentration, il y a un effort qui est fourni, forcément, ça demande une certaine énergie, hein. C'est plus facile de rien dire, Esther. Hein. Mais quand vous parlez, ça demande un effort, une concentration, une volonté de le faire. Hein. Et en plus de cela, la prière, c'est quelque chose qui s'oppose à notre mauvaise nature. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est contre la mauvaise nature. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. La chair ne veut pas prier. La chair n'aime pas parler à Dieu. Elle n'aime pas. Parler vraiment, je veux dire. Et c'est parfois une lutte. La prière peut être une lutte au commencement. Un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une vraie démarche de repentance, de foi, qui a vraiment accepté Jésus dans son cœur, il a reçu le Saint-Esprit. Et donc, comme il a reçu cette nouvelle nature, il a ces deux natures qui sont en lui, qui s'opposent. Et parfois, on a perdu l'habitude de prier. Peut-être autrefois, on a prié davantage, mais là, on ne prie plus. Quel est le résultat quand on a perdu l'habitude ? On prie peu et on n'a pas vraiment envie de prier. Alors, peut-être on sait qu'on devrait prier davantage, mais on se contente des 5 petites minutes chaque jour. On se contente de ça. Et on voit que parfois que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans notre vie, ça ne va pas bien dans la vie autour de nous, dans les circonstances, il n'y a rien qui va. Et on se dit, je devrais prier. Et on a du mal à s'y mettre. On a du mal à le faire. Mais il y a un combat. Et le combat, il commence aussi dans notre cœur. Il y a un effort de volonté pour dire, non, je sais que c'est bien, je sais qu'il faut que je prie, je vais le faire. Et je vais demander à Dieu. Et je vais demander à Dieu qu'il agisse, qu'il intervienne, même si j'en ai pas envie. Mais dans mon intelligence, je sais que c'est bien, je vais le faire. Et la première fois, c'est difficile. C'est difficile de prier davantage que ces 5 minutes. Et la deuxième fois, c'est encore difficile. Et la troisième fois, c'est juste un tout petit peu plus facile. Et puis quatrième, et cinquième, et sixième, et septième fois. Et là où il y avait une certaine résistance, une opposition intérieure, un refus, on voit que quelque chose est en train de se changer en nous. Parce qu'on s'est mis du côté de Dieu. Alors quelque chose est en train de changer en nous. La nouvelle nature commence à prendre le dessus. Et alors là, des sujets commencent à nous venir, des sujets de prière, des fardeaux. Et Dieu nous exauce. Et puis, on continue. Et puis, ça devient une habitude. Ça devient une habitude de vie. Et quand la prière devient une habitude, alors c'est plus un fardeau pesant, lourd. Parce que des fois, on commence, on se dit, oh, c'est trop dur. Mais si on reste là à commencer, on n'ira jamais plus loin. Hein. Et on va vivoter notre vie chrétienne. Toute notre vie, on va vivoter comme ça, de petites prières. Il faut passer cette étape où c'est difficile. Et après, ça devient beaucoup plus facile. Et notre relation avec Dieu, elle se développe. Et petit à petit, les choses changent. Alors, je vous pose la question. Est-ce que nous réclamons avec insistance, avec persévérance, chaque jour, le salut de plusieurs personnes que nous connaissons autour de nous? Est-ce que nous lui demandons? Seigneur, je sais, vous dites c'est répétitif, mais oui, mais Dieu nous demande de répéter. Je veux que les hommes élèvent des prières vers Dieu avec des mains pures et qu'ils prient pour tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc oui, c'est répétitif. Mais je redemande, Seigneur, sauve un tel. Seigneur, travaille le cœur d'un tel. Seigneur, agis. Est-ce que nous prions régulièrement pour que Dieu transforme le cœur de ceux que nous aimons? Des fois, on se dit, les choses ne changent pas. J'en ai marre, Seigneur. Mais est-ce que je prie pour l'autre? Seigneur, change. Change le cœur, transforme, sanctifie, change. Est-ce qu'on a à cœur les intérêts de Dieu? Quels sont les intérêts de Dieu? Est-ce qu'on porte les fardeaux les uns des autres? Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez la loi de Christ. Vous ferez la loi de Christ, vous accomplirez la loi de Dieu. Portez les fardeaux, ça veut dire, je me soucie de l'autre. Comment tu vas aujourd'hui? Tu vas pas bien, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Est-ce que nous prions pour que Dieu bénisse le culte du dimanche matin et Dieu bénisse la prédication? J'ai besoin de vous. Ceux qui prêchent ont besoin de vous. J'ai besoin de vous. Moi aussi, je peux être à court d'inspiration. Je peux passer une journée complète à chercher, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et à lire et à chercher. Priez pour moi, je vous en prie. Priez pour le culte. Demandez à Dieu, Seigneur, bénis le message. Ça ne vient pas de moi, c'est de lui. Et quand vous êtes béni, c'est Dieu qui vous bénit. Mais moi, je dépends de lui. Et j'ai besoin de vous. Priez pour moi. Priez, dites, Seigneur, bénis-le. Remplis sa bouche et donne-lui des choses à dire et nourris nos âmes. Est-ce que nous prenons le temps d'être avec lui? Pas juste 5 minutes, mais on prend le temps, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Avec ma Bible et dans la prière. Je veux passer du temps avec toi. Quand quelqu'un est importun, c'est qu'il veut vraiment la chose. Quand vous importunez quelqu'un, c'est que, vous voulez, hein. Et Dieu veut qu'on veuille, c'est ça. Il veut qu'on veuille. Ça compte pour lui. Et Dieu promet qu'il répond aux prières. Ça vaut le coup. On sera exaucé. Regardez la suite, versets 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et le Seigneur ici nous ramène sur l'importance de comprendre que Dieu est un Père. Et le meilleur des Pères. Le meilleur. On n'a pas toujours la chance d'avoir un père qui est présent ou d'avoir un père qui est attentif à nos besoins. Mais Dieu, c'est le Père céleste, le Père parfait, notre vrai Père en fait. Hein? si on se laisse adopter par lui, parce que c'est ça, il faut devenir son enfant, donc il faut se laisser adopter. Mais Dieu veut nous adopter. Et si on se laisse adopter, alors il est vraiment notre Père. Et nous sommes son enfant. À combien plus forte raison, dit Jésus, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Alors, à la fois, quand on lit ça et qu'on se dit, mais est-ce que moi j'ai reçu le Saint-Esprit ? Ben, c'est une promesse aussi pour moi, hein ? Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je peux le recevoir pour moi. Seigneur, sauve-moi. Je crois en Jésus. Maintenant, pour ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, eh bien, on peut le réclamer pour les autres. On peut le demander pour les autres. Demander au Seigneur qu'il remplisse du Saint-Esprit. Qu'il donne sa bénédiction. On peut le demander aussi, Seigneur, remplis-moi pour que je puisse apporter quelque chose aux autres. Que j'ai des pains, que j'ai le Saint-Esprit, que j'ai de la nourriture, que je puisse apporter aux autres. Et vous savez, la pauvreté spirituelle, ce n'est pas une fatalité. On pourrait presque dire, c'est un choix. La pauvreté spirituelle est un choix. Puisque Dieu est un bon Père, qui donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est ce que dit le texte. Donc c'est aussi simple que cela. Alors pourquoi on est parfois faible, sans force, tombant de chute en chute ? Ben, la réponse, elle est dans le texte. C'est parce qu'on ne demande pas. On ne demande pas. Paul écrit aux chrétiens, il dit qu'il fléchissait les genoux devant le Père et il demandait. Et qu'est-ce qu'il demandait ? Il demandait le Saint-Esprit pour ses frères et sœurs. Regardez cette prière, je vous la lis. Il dit, « Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ, c'est encore l'Esprit. Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et il dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ben, il demande le Saint-Esprit. Et il le demande. Oh, mais comment le demande-t-il ? C'est une prière riche. Hein ? On pourrait dire, mais quelle prière extraordinaire ! Et pourtant, pour Paul, c'était une prière ordinaire. Une prière, ordinaire. C'est-à-dire, c'était la prière, une prière de tous les jours. Tous les jours, il demandait ça. Il priait chaque jour, « Seigneur, remplis mes frères, inonde-les du Saint-Esprit, vraiment. Donne-leur la force de vivre pour toi, qu'ils soient forts, ancrés, puissamment fortifiés dans leur cœur, dans leur âme, qu'ils connaissent ton amour, qu'ils expérimentent la plénitude de Dieu. Seigneur, fais-le. » Vous savez, ma prière, lorsque je dis par exemple en me levant le matin, Seigneur, bénis cette journée. Amen. Elle ne fait pas le figure. Hein. C'est tout petit, en fait, ma requête. Dieu veut qu'on demande largement, beaucoup. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Si je ne demande pas, ben je ne reçois pas. Si je demande peu, ben je reçois peu. Je dois demander. Je lisais dernièrement le livre des rois. Et si vous vous souvenez, il y a une histoire avec Élisée. Élisée qui est... il va bientôt mourir. Et il y a le roi Joas, un roi d'Israël. Et il lui dit, prends ton arc, tes flèches. Puis il va lui dire, prends tes flèches, tape sur le sol. Alors, il va taper trois fois sur le sol avec ses flèches, probablement un peu mollement. Tac, tac, tac. Il est dit, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, mais il fallait frapper cinq fois, six fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Et on ne reçoit que ce que l'on veut prendre, hein, ce que l'on veut recevoir en fait. Si notre prière, elle est faible, elle est épisodique, et si on demande rien ou si peu, eh ben on reçoit rien ou si peu. C'est comme ça. Alors, je me réjouissais de me dire, avec le Seigneur, vous savez, on est à l'aube de 2017. Et on se dit, je recommence une nouvelle année. Mais en fait, c'est merveilleux avec Dieu, parce que chaque matin, c'est un nouveau commencement. Chaque matin, mais c'est comme la nouvelle année, hein. Chaque matin, je peux dire, ça s'est pas bien passé hier, mais Seigneur, par la grâce de Dieu, ça ira bien aujourd'hui. Et même dans ma journée, quand ça va pas bien, je peux m'arrêter, me mettre à genoux, dire, j'ai mal commencé, Seigneur. C'était une catastrophe ce matin. Mais aie pitié de moi et que je termine bien cette journée en te glorifiant et rempli du Saint-Esprit. Eh bien, Dieu le fait. Le commencement, mais c'est maintenant, c'est tout le temps. Ça, c'est pour tout de suite. Voilà, on est devant 2017 et j'aimerais qu'on se souvienne, une seule chose est nécessaire. Une seule. C'est ma relation avec le Seigneur. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est peut-être le moment de prendre sa vie de prière à bras-le-corps en disant, allez, j'avance avec le Seigneur et je lutte réellement. Et on verra des changements. On verra des changements dans nos vies et dans la vie de ceux pour lesquels nous prions. On a donné des calendriers, mais les calendriers ne porteront pas de fruits si nous ne prions pas pour ces personnes. Il faut prier. La Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les puissances, les dominations dans les lieux célestes. Et vous savez, les oiseaux ont vite fait de venir prendre les graines qui sont sur le chemin. Si on ne prie pas, la graine ne prendra pas racine. Il faut qu'on prie. Et Dieu chasse les oiseaux. Et la graine peut prendre racine. Et ça porte du fruit sans qu'on sache comment. Donc, il faut prier pour tous ceux à qui nous donnons des calendriers. Notez-le, faites une liste, ressortez cette liste, gardez-la présente. Demandez, 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 et vous recevrez. Une seule chose est nécessaire. On ne va pas le prendre, mais simplement rappeler cette phrase. Jésus a raconté une autre histoire. Pourquoi faire ? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus qui dit ça. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'on puisse vivre ça cette année. Hein, que cette année, allez, il y a un changement. Je vais vraiment prier sérieusement et maintenir ma relation avec Dieu. Une seule chose est nécessaire. On va avoir un moment de prière. Si vous voulez lui rendre grâce, eh bien, vous pouvez le faire librement. Seigneur, je veux te remercier, te rendre grâce parce que je reçois premièrement l'exhortation que je donne et tu me fais du bien, tu nous fais du bien, Seigneur, nous rappelant qu'une seule chose est nécessaire. Merci Seigneur parce que nous savons que tu réponds à la prière, même si nous ne ressentons pas la chose au moment où nous le demandons. Seigneur, toi tu entends et tu exauces. Aide-nous à persévérer, aide-nous à faire mieux, à nous engager et à te servir de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.